19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'ancienne route de Didier serpente sur un versant d'un quartier résidentiel de Fort-de-France. J'ai rendez-vous aux 54 rues du professeur Raymond Garcin, grande villa blanche au toit de zinc, bordée de trois cocotiers, abritant un haut lieu de notre administration culturelle, la DAC de Martinique. J'ai rendez-vous dans le bureau du chef de service en charge de l'archéologie, avec deux spécialistes du passé des Antilles, le professeur Benoît Bérard, incontournable spécialiste de la préhistoire des îles, et Dominique Rogers, historienne, maîtresse de conférences, tous deux enseignants à l'Université des Antilles. L'archéologie des Antilles, notamment de la Martinique, est fort peu connue. Elle porte pourtant en elle de très beaux sujets de recherche, notamment sur les sociétés amérindiennes, les premiers temps de la conquête, celles des plantations et de l'esclavage, de la ville coloniale et des temps contemporains, comme des îles et de l'insularité. La conquête des îles est bien sûr un sujet capital pour l'archéologie. Qu'en est-il, Benoît Bérard, de la Martinique et de la première arrivée des sociétés humaines?
Alors, les Antilles sont un archipel océanique, et comme la plupart des archipels océaniques, ils ont été peuplés tardivement dans l'histoire de l'humanité. On a des premières dates vers le 5e millénaire avant notre ère dans les Grandes Antilles, et ces populations vont se développer dans l'archipel antillais. C'est des populations qu'en archéologie américaine on appelle archaïques, qui arrivent, on commence à avoir les premières données ces dernières années sur la Martinique, avec des groupes qui sont des groupes de nomades maritimes, en fait, et qui vont exploiter les ressources des différentes îles au cours d'un circuit nomadique. Après, il y a un deuxième grand mouvement de migration qui, lui, se situe dans la deuxième moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ, et qui est lié à l'arrivée de populations qui nous viennent d'Amérique du Sud, du delta de l'Orénoque plus particulièrement, on connaît bien leur point d'origine continentale, et qui vont développer un véritable projet pionnier dans l'archipel antillais, et qui vont s'installer dans toutes les îles, depuis le continent jusqu'à Porto Rico, dans un premier mouvement. C'est des populations qu'on appelle saladoïdes, qui sont caractérisées par une identité qui est très forte au niveau culture matérielle, et entre autres qu'ils vont marquer par un investissement technique, symbolique, extrêmement développé dans la production céramique. Ce qui pour nous archéologues est extrêmement intéressant parce que ça permet d'aller très loin dans la caractérisation culturelle de ces groupes, d'identifier des entités très fines et de voir comment ces groupes prennent possession à la fois physiquement mais aussi symboliquement de cet espace insulaire.
C'est ces petites grenouilles qu'on connaît, qu'on voit dans les vitrines de musées ?
Alors entre autres, c'est le deuxième aspect dans lequel la culture matérielle est très forte pour ces populations, c'est tout ce qui est éléments de parure, donc avec ces pendentifs en roche semi-précieuse hein, qu'on va retrouver, qui sont généralement pour les petites grenouilles qui sont en jadéite, mais elles s'intègrent à tout un corpus de parures en roche semi-précieuse, qui sont à la fois une source pour l'identification de ces populations, mais qui sont aussi une source extrêmement intéressante pour la connaissance de leur réseau d'échange. Et c'est un élément important. Il ne faut pas imaginer que ces populations qui viennent coloniser les îles soient des populations insulaires au sens premier, prisonnières de ces îles. Elles sont au cœur de réseaux d'échange, de circulation, et l'origine de ces matières premières utilisées pour les éléments de parure est une source de renseignement incomparable pour nous, pour la connaissance de ces réseaux et de ces relations entre les îles.
Vous me parliez de société archaïque. D'où vient cette société et qu'est-ce que recouvre cette notion donc de nomade maritime ?
Alors, l'origine de ces populations est encore un petit peu incertaine dans les Antilles. Il y a sans doute une origine mésoaméricaine au départ, parce que les dates les plus anciennes qu'on ait d'occupation sont dans les Grandes Antilles, et on le sait, une des zones de proximité entre l'archipel antillais et le continent, en fait, c'est la péninsule du Yucatan et l'ouest de Cuba. Et il y a peut-être une entrée très précoce de gens par là. Ensuite, il y a des sociétés très anciennes qui sont présentes à Trinidad, mais Trinidad est plutôt une île continentale, et ces sociétés sont plutôt liées à celles des basses terres du Venezuela. Et dans les Antilles, ces groupes-là sont des groupes qu'on pourrait, pour donner un équivalent européen, des sociétés en cours de néolithisation, c'est des sociétés qui vont pratiquer de la pierre polie, qui vont commencer à introduire des plantes depuis l'Amérique du Sud, mais qui semblent être encore des sociétés nomades et dont la pratique de l'agriculture reste encore peu développée et quasiment pas ou très très peu de production céramique.
On imagine qu'ils arrivent en pirogue. Ils ont le projet donc de conquérir de nouveaux espaces ?
Alors, pour les archaïques, nos données ne nous permettent pas d'aller aussi loin de façon très précise. Pour les premières sociétés agricoles, très clairement. C'est des gens qui arrivent avec un projet pionnier, avec un système économique prédéterminé, qui est composé de plusieurs éléments. D'abord, ils vont introduire tout un corpus de plantes et d'animaux depuis le continent sud-américain. Alors, des plantes qu'ils ont domestiquées, hein, comme un peu partout sur le continent américain, nos Amérindiens sont des grands agriculteurs de piètres éleveurs, hein. La domestication animale est assez peu développée. Le seul animal domestique qu'ils introduisent, c'est le chien. Mais par contre, ils vont introduire des animaux sauvages qu'ils vont relibérer sur les îles, qui sont utiles pour leur consommation ou pour des aspects matériels, hein, comme les perroquets dont ils vont exploiter les plumes. Ce système économique, il est aussi composé d'une idée très précise des conditions environnementales nécessaires à l'installation d'un village. C'est pas du tout des gens qui sont dans une perspective opportuniste et qui vont arriver dans les îles et un peu s'adapter à ce qu'ils vont trouver. Ils ont une idée prédéterminée, très claire, avec une priorité donnée aux terres agricoles. On est dans la civilisation du manioc et ces agriculteurs vont s'installer généralement, ces premiers sites, ils sont toujours dans les meilleures terres de toutes les îles. Et donc il y a une priorité qui est donnée à ça, à la proximité aussi de sources d'eau potable, pérennes, facilement accessibles, des rivières ou des sources, et un rapport à la mer important, mais on n'a pas des installations qui sont sur les plages, ils sont plutôt en retrait justement sur les plateaux côtiers qui sont favorables au développement de l'agriculture.
Ils sont arrivés en pirogue.
Alors bien entendu, ils sont arrivés en pirogue. On est dans des sociétés maritimes, hein, qui naissent de la mer, qui vivent par la mer. C'est des grands navigateurs. Alors ça a été un de nos sujets de recherche ces dernières années, parce que l'archéologie antillaise s'est un peu libérée du paradigme de l'insularité il y a une quinzaine d'années, et à un moment, montrer les relations entre les îles, redéfinir des territoires précolombiens qui ne seraient pas uniquement insulaires, ça impliquait d'évaluer, de connaître les moyens de circulation et de relations entre les îles. Donc on a développé des projets d'archéologie expérimentale où on s'est appuyé sur le patrimoine des populations amérindiennes de la zone. Il y a encore des pratiques, que ce soit dans le territoire caraïbe de la Dominique ou sur le continent sud-américain, de populations qui savent construire des pirogues de haute mer. Et donc on est allé voir ces populations, on a reconstruit ce type de pirogue et on a navigué entre les îles pour recueillir tout un tas de données, à la fois des données sur les capacités de transport de ces embarcations. C'est des embarcations qu'on a modélisées. On a travaillé avec le laboratoire de l'école navale qui a fait toute la modélisation de ces embarcations et qui a calculé toutes les questions de capacité d'emport par des études hydrostatiques et hydrodynamiques. Et puis, de la pratique véritablement expérimentale pour avoir des idées sur les types de mer que ces embarcations étaient capables de parcourir, les conditions maritimes qu'elles étaient capables de supporter, leur vitesse de navigation, l'effort que ça représentait pour les équipages, et de fait en sortir des informations sur leur capacité à développer des relations très fréquentes entre les îles, sachant que dans les Antilles, les îles sont proches les unes des autres. On n'est pas dans la situation des archipels polynésiens qui sont séparés les uns des autres de milliers de kilomètres. Là, c'est généralement quelques dizaines de kilomètres. Il y a une covisibilité entre les îles et donc ça facilite forcément ces possibilités de navigation.
Ces saladoïdes, comment gèrent-ils l'espace ? Une sorte d'espace quand même qui est assez nouveau. Ils ne sont visiblement pas littéralement sur le littoral, sur la côte. Il n'y a visiblement pas ce que l'on connaît un peu partout à travers le monde, ces énormes monticules de coquillages.
Alors non, on n'a pas véritablement de gros amas coquillés dans les Antilles. Il y a une très forte exploitation des ressources maritimes. C'est une source alimentaire et en termes de matières premières, parce qu'on a des coquillages avec des très grosses coquilles comme le lambi qui sont utilisés pour faire de l'outillage poli, hein, des lames de hache, des lames de herminet, des petits ciseaux à bois, ou aussi des éléments de parure. Après, sur leur gestion du territoire, on a, pour ces premiers pionniers, d'abord une vision assez centralisée. Il y a le village, qui est le centre des interactions sociales, et où on va ramener tout ce qu'on va récupérer ailleurs, mais on a dans le premier temps pas de site spécialisé. Il n'y a pas de site d'atelier dans le premier céramique des Antilles. Après, ils ont une seconde zone d'espace, qui est une espèce qu'on pourrait appeler économique, qui se rapproche un peu du modèle du catchment area, où ils vont récupérer ce dont ils ont besoin. Et puis après, il y a un espace beaucoup plus large, qui est un espace symbolique, celui dans lequel circulent ces grenouilles, ces matières premières semi-précieuses qui viennent parfois de très loin, hein, parfois du continent sud-américain. Et c'est un des intérêts du travail dans les Antilles, c'est que chaque il possède ses ressources propres, et donc on peut mettre en évidence ces relations de façon très évidente. Et donc c'est cet emboîtement d'espaces, mais c'est des espaces qui se superposent avec ceux d'autres groupes, d'autres villages, et donc c'est les relations qu'on a là. Et ces espaces, ils sont à la fois bien entendu terrestres, mais ils sont aussi maritimes. Et c'est aussi un des grands changements de ces dernières années, c'est d'intégrer complètement cette composante maritime, non pas dans l'environnement, mais dans la territorialité de ces groupes. Les populations terrestres ont tendance à voir la mer comme un espace homogène, un espace sans lieu. Ce n'est pas du tout la perception des populations maritimes. Il y a des zones de pêche avec des hauts fonds qui sont entre les îles, qui peuvent être des zones de rencontre avec des groupes qui viennent d'îles différentes. Et donc il y a toute une dynamique aujourd'hui autour de l'analyse de cette territorialité en termes à la fois terrestres, mais aussi surtout maritimes.
Alors l'insularité, c'est souvent évoquer l'isolement. Vous développez une autre notion, l'archipelité, donc pour montrer ces relations interîles qui sont visiblement très denses. On se sent presque plus proche d'une île que de l'intérieur de sa propre île.
Alors c'est des choses qu'on a pu effectivement travailler ces dernières années. Il y a maintenant près d'une quinzaine d'années, on a pu montrer qu'en fait il y a 2000 ans, quand ces premiers agriculteurs arrivent dans les Antilles, les populations qui vivent dans le sud de la Dominique, qui est l'île qui est juste au nord de la Martinique, hein, qui n'est séparée que par un bras de mer de 40 km, étaient plus proches culturellement des populations qui vivaient au même moment dans le nord de la Martinique que des populations qui vivaient au même moment dans le nord de la même île. Et c'est cette constatation sur le terrain, hein, à partir de l'analyse des vestiges archéologiques, qui nous a amené à re-réfléchir tout ça en se disant ce paradigme de l'insularité, hein, dont on avait hérité entre autres des travaux d'Irvine Rouse, il n'est pas valable. Et à un moment, quand on doit réfléchir à des territoires culturels, on ne peut pas partir du principe que l'île est un territoire valide de façon pérenne. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est jamais, mais ça veut dire qu'il ne peut être considéré comme un territoire valide qu'à la suite d'une vraie évaluation archéologique.
Benoît Bérard, côté matérialité, qu'est-ce que l'on a comme site archéologique? Qu'est-ce que l'on a comme fouille sur ces périodes?
Alors, en Martinique, on a une chance exceptionnelle, c'est que dans le nord de l'île, on a un ensemble de près de 15 gisements, qui est le plus important à l'échelle de la Caraïbe, lié à l'arrivée de ces premiers agriculteurs pionniers. Et la chance qu'on a, c'est que ces sites ont été recouverts par des dépôts volcaniques de la montagne Pelée, qui à la fois les ont scellés, en ont inséré la protection, et dans certains cas ont été la cause de l'abandon des sites. Donc nous avons entre autres un site sur lequel on a fouillé il y a quelques années, qui est le site de Vivet, au Lorrain, qui est une sorte de Pompéi amérindien. Les Amérindiens ont quitté le site de façon précipitée au début d'une éruption volcanique de la montagne Pelée, en abandonnant sur place toute leur culture matérielle, tous les objets qui étaient là. Donc on a une collection en Martinique de plus de 300 vases complets liés à cette période, qui est unique au monde. Cette céramique dont je disais qu'elle était très marquée culturellement, qui est extrêmement belle, techniquement extrêmement bien faite, des parois très fines, très bien cuites, et surtout extrêmement décorées. Près de 40% des restes fragmentaires, des tessons, porte un décor, des décors peints, polychromes, incisés, gravés, modelés, et c'est un indicateur très fort pour nous.
La plus belle céramique du monde?
De mon point de vue, la plus belle. Il y a un vrai investissement, mais c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres groupes pionniers. Le fait que ces groupes pionniers qui partent quand même à la conquête de l'inconnu ont une identité culturelle très forte qu'ils marquent dans la culture matérielle. C'est des choses qu'à un certain côté, on peut rapprocher des cultures lapitans en Polynésie, avec là aussi des céramiques absolument exceptionnelles, avec ces décors pointillés dans les urnes funéraires. D'une certaine façon, moi, j'y vois aussi un parallèle avec la culture danubienne, hein, et les travaux de mes collègues là-dessus qui montraient que les maisons danubiennes et les villages danubiens, ceux qui sont les plus rigoureux dans l'expression des standards culturels, c'est toujours ceux qui sont le plus près du front pionnier. On travaille là sur des éléments qui sont caractéristiques de ce type de société. Et c'est vrai que là, il y a un investissement très fort.
Benoît Bérard, peut-on dire que désormais, les Amérindiens sont un élément du patrimoine martiniquais?
Alors oui, il y a eu des changements importants à ce niveau-là. Les Amérindiens, les sociétés amérindiennes et leurs études sont à la base de la construction archéologique dans les Antilles. Les premières fouilles archéologiques remontent aux années 30 dans les petites Antilles. Mais pendant très longtemps, ça a été l'étude de chercheurs, de sociétés savantes. Et il n'y avait pas véritablement d'appropriation intime de cette histoire et de ces héritages par les populations. C'est quelque chose qui a changé depuis une quinzaine d'années sur plusieurs raisons. D'abord parce que les archéologues ont changé le discours. On était quand même très fortement marqué par un mythe colonial qui faisait des Amérindiens des petites Antilles, ces fameux Caraïbes, des monstres, hein, des figures de la monstruosité, des dévoreurs de chair. Hein, les Espagnols nous disent qu'ils sont voleurs, violeurs de femmes, pédophiles, sodomites, anthropophages, peu accueillants avec leurs invités surprises venus d'Europe. Hein, il y a un synonyme dans les chroniques espagnoles à Caraïbes, c'est Indios Flecheros, les Indiens flécheurs, ceux qui nous lancent des flèches. Et donc c'était une figure de la monstruosité qui était difficilement adoptable par les populations antillaises. Donc la réécriture de cette histoire-là a favorisé leur adoption, et un autre élément qui est plus lié à la dynamique des sociétés antillaises a beaucoup participé aussi, c'est le changement du discours identitaire. On a été pendant très longtemps impacté par un discours colonial où le modèle européen était dominant. À partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tout ce grand moment de réveil des Amériques noires, hein, qui a été fortement matérialisé en Martinique, entre autres avec la figure d'Aimé Césaire et le mouvement de la négritude. Et puis, depuis les années 80, avec le travail d'Edouard Glissant sur l'antillanité, le travail de certains de mes collègues à l'Université des Antilles sur la question de la créolité, ben, ça a ouvert une place pour les Amérindiens, ça a ouvert une possibilité de réintroduction de ces Amérindiens dans le roman national, ce qui amène même aujourd'hui les populations à se reposer la question de l'ancestralité. Il y a des gens aujourd'hui aux Antilles, qu'il n'est ou qu'il n'est pas d'origine génétique amérindienne, qui disent mes ancêtres amérindiens, parce que dans les cultures créoles contemporaines, il y a des éléments qui nous viennent des Amérindiens, que ce soit en termes d'alimentation, de pratiques artisanales. Et donc ces héritages qui étaient un peu invisibles sont véritablement devenus un patrimoine visible et adopté par les populations antillaises.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Dominique Rogers, il y aurait une appropriation des Amérindiens aujourd'hui ? Une sorte de forme de résistance à la colonisation ?
Alors, je ne sais pas si ça participe d'une forme de résistance à la colonisation, mais oui, il y a très nettement une forme d'appropriation des Amérindiens. Elle se fait avec retard par rapport à nos amis des Antilles anglaises, où dans les années 80-90, on a déjà des histoires de telle ou telle île de la période amérindienne à nos jours. Mais très clairement, aujourd'hui, on le voit au travers des fresques, on le voit au travers des statues, des monuments qui ont été érigés dans différentes communes de Martinique. Il y a une perception de ces Amérindiens comme faisant partie de notre histoire.
L'esclavage a été un sujet longtemps occulté, il l'est peut-être encore aujourd'hui.
Alors il n'est plus occulté aujourd'hui, il y a un très gros effort qui a été fait au niveau national et au niveau local aussi, mais c'est un sujet qui était un sujet sensible, c'est un sujet délicat, on ne pouvait pas en parler, c'était compliqué. Je crois qu'un bon exemple, c'est la statue de Joséphine que vous avez sans doute vue à la Savane, où effectivement elle était impératrice des Français, le cadeau offert au 19e. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui la maculent de sang, voilà, le lien avec l'esclavage est encore problématique. Et l'habitation de la Pagerie, pendant longtemps, ils ont eu, je crois, au moins deux tentatives d'incendie. Enfin voilà. Donc c'était tout ce qui était lié à l'esclavage était compliqué. On allait en conférence sur l'esclavage, il y avait toujours des cris, des hurlements. On n'arrivait pas à parler de cette histoire.
Il y aurait une différence entre la Martinique et la Guadeloupe au niveau des études ?
Effectivement, dans le rapport peut-être à cette histoire, oui, sans doute. C'est vrai à plein d'égards. Je dirais que le Guadeloupéen se présente comme un nègre très facilement. Le Martiniquais se voit comme un mulâtre. En tout cas, en matière de patrimoine, les Guadeloupéens... Enfin, il y a eu une vraie prise en charge de la question de l'esclavage et de cette histoire d'une manière beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche.
En tout cas, il faut attendre quand même les années 2000 pour que le sujet soit un peu lancé, avec des gens comme Kenneth Kelly.
Au niveau archéologique, oui, les premières grandes fouilles à la Martinique datent de cette date. Au niveau historique, on est plutôt sur les années 60-70, on a déjà des travaux. Mais au niveau archéologique, c'est plus tardif, effectivement.
Alors bien sûr, l'esclavage, c'est par évidence la traite. Ce n'est pas que la traite elle a été quand même très étudiée, c'est tout le reste maintenant qui est important.
Le problème c'est qu'on a parlé de l'esclavage, mais on l'a longtemps fait sous une forme très misérabiliste. L'esclave battu, l'esclave qui est une personne qui n'avait aucun droit, qui n'avait aucune possibilité d'agir. Alors oui, il y avait aussi les marrons, mais les marrons finalement c'est une exception. Donc on était dans un discours qui est extrêmement binaire et qui ne permettait pas aux gens qui étaient quand même suffisamment réalistes de dire bah oui il y a des marrons, mais il y a combien de marrons par rapport à combien de milliers, parfois de millions d'esclaves. Donc effectivement... On avait un discours qui ne permettait pas aux gens, finalement, d'accepter leur histoire et de grandir avec. Ce qu'on a fait dans les dernières années, c'est peut-être justement d'ouvrir... On a documenté l'agency des esclaves, leur agentivité, comme disent nos camarades du Canada, cette capacité à faire des choix, à agir, même dans un espace extrêmement contraint. On a travaillé sur les voies d'esclaves, on a reconstitué des familles esclaves, on a travaillé sur des récits de vie. On a vraiment permis de prendre conscience que la réalité était très différente. Et on l'a fait notamment dans le cadre de travaux qui sont portés sur la ville et moins sur le monde de la paysannerie, du monde agricole où on est face à des masses d'esclaves, alors que quand on est sur de l'urbain, eh bien on découvre d'autres activités, des esclaves violonistes, des esclaves dockers, des esclaves qui tiennent un commerce, donc des lieux où l'esclave est en autonomie.
C'est ça cette capacité d'agir, l'agency ?
L'agency, ça n'est pas que de la capacité d'agir au niveau économique, c'est aussi de faire des choix en tant que parent, en tant qu'homme et femme. C'est la capacité d'essayer de reconstruire sa vie, de faire ses propres choix. Même si on a un maître, même si on a un système qui vous choisifie, eh bien on va retrouver l'humanité qui est dans chaque individu. Et c'est cette histoire-là qu'on ne nous avait pas racontée.
Vous êtes parti des actes notariés, élément capital, une source extrêmement riche.
Extrêmement. C'est ma source préférée, mais c'est une source extrêmement riche. Dans les actes notariés, vous avez tout, vous avez de la chair du vivant. Vous voyez vraiment le monsieur qui explique que c'est son petit enfant chéri. On va raconter des détails du quotidien qui vont vraiment nous permettre d'arriver à savoir plein de choses qu'on ne va pas avoir dans un acte de loi, qu'on ne va pas avoir effectivement dans des papiers administratifs, et c'est normal. Là, on est sur ce que les gens ont vraiment vécu.
Avec vos sources notariales, vous avez bien sûr étudié ou perçu la plantation, mais vous avez aussi perçu ce milieu urbain.
Ah oui, bon, moi j'ai travaillé sur les livres de couleurs. Au départ, on est en train de changer les choses avec les travaux de Marie Hardy ou Jessica Pierre-Louis. On découvre effectivement des livres de couleurs en milieu rural à la Martinique. Mais effectivement, pendant très longtemps, les livres de couleurs, qui est la grande thématique des 20 dernières années, ce sont des gens qui habitent en ville. Donc on a tous beaucoup, Frédéric Réjean, Perrotin Dubon, on a beaucoup travaillé sur le monde urbain. Et le monde urbain est intéressant parce qu'effectivement, donc ça mettait en valeur cette population particulière des libres de couleur, donc des noirs ou des métis libres de naissance ou par affranchissement. Et donc ça permettait de découvrir une société complètement différente de celle qu'on imaginait. On sort du binaire, et quand on est à trois, ben, il faut commencer à négocier. C'est aussi simple que ça. Et donc effectivement, ça ouvrait sur d'autres réalités. Et les niveaux d'enrichissement atteints nous posaient question. Donc c'est pas simplement une question de couleur, donc c'est plus compliqué. Donc là, on pouvait commencer à discuter. Ensuite, donc la ville, ça c'est les travaux d'Anne Perrotin-Dumont, hein, qui sur la Guadeloupe, mais qui ont permis de découvrir que ben non, il n'y avait pas qu'une manière de concevoir les rapports humains, qu'au niveau des politiques, il y avait des choix différents qui se faisaient, et là encore, qui nous ont ouvert des pans entiers complètement nouveaux sur les sociétés antillaises. Pour longtemps, c'était le monde de l'habitation, esclavagiste. Aujourd'hui, ben, les Antilles, c'est aussi le monde urbain.
Qu'est-ce que l'on aurait en archéologie ? L'archéologie, c'est une matérialité quand même par rapport au texte. Qu'est-ce que l'on aurait en archéologie, justement, en milieu urbain ou autour de l'esclavage, bien sûr ?
Peut-être dans le milieu urbain, aujourd'hui, on n'a pas encore énormément travaillé, mais sur la question de la plantation et sur l'agency de ces esclaves, il y a des travaux extrêmement riches et très intéressants qui ont été développés. Par exemple, il y a eu des fouilles sur le village d'esclaves de l'habitation Crève-Cœur en Martinique et qui ont montré deux choses vraiment très intéressantes. D'abord, la question de l'activité de pêche et sans doute des patrons de canaux et des esclaves qui participent à cette activité de pêche et qui est une activité qui va être redistribuée entre différentes habitations, certaines qui n'ont pas de façade maritime. Et sans doute encore plus intéressant, et c'est en écho tout à fait avec ce que disait Dominique sur abandonner un peu la vision misérabiliste, les populations serviles ici aux Antilles avaient une habitude un peu partout dans les petites Antilles de produire de la céramique, qu'on appelle une céramique afro-caraïbe, qui est une céramique qui est construite avec des techniques de montage au colombin et cuite dans des foyers ouverts, donc qui est très différente de la tradition européenne. Et on avait tendance à considérer que cette céramique, elle était produite que pour eux-mêmes, pour leur usage personnel. Et en fait, les travaux de ces dernières années ont montré qu'il y a un vrai marché, et un marché caribéen de ces céramiques. Des études de pâte ont montré que des céramiques fabriquées en Martinique avaient pu circuler en Guadeloupe. Et d'autres travaux sur la Jamaïque ont montré toute l'importance qu'avaient dans la colonie de la Jamaïque ces esclaves potières, qui avaient des accords avec les propriétaires et qui avaient une vraie capacité économique à travers ce savoir-faire technique. Et ce savoir-faire technique, il a bien une matérialité. Et l'archéologie nous permet d'aborder cette réalité et de voir justement ces circulations, ces réseaux et cette part véritable que prennent les populations serviles à la construction de ces sociétés coloniales, pas uniquement par leur force de travail brute, je dirais, comme travailleurs de la terre, mais comme véritablement acteurs techniques et économiques de ce monde en construction.
Qu'en est-il des cimetières ? Il y a visiblement une diversité dans ces cimetières pratiqués.
Oui, on a des cimetières qui sont liés aux militaires. On a des cimetières liés paroissiaux et on a effectivement des cimetières un petit peu sauvages qu'on va retrouver par exemple en bord de mer ou à l'intérieur des terres sur les habitations. Donc l'une des caractéristiques a priori des cimetières que nous avons dans les Antilles, c'est des cimetières ségrégés, c'est-à-dire que ce sont des cimetières où il y a une partie pour les esclaves et une autre partie qui est pour les libres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les libres de couleur et les blancs qui sont enterrés dans la même partie du cimetière. Par contre, les esclaves sont dans une autre partie.
Benoît Bérard, un cimetière vient d'être fouillé ?
Oui, tout à fait. Mon collègue Thomas Romand de Guadeloupe, avec une équipe d'anthropologues physiques venant de Bordeaux, du laboratoire PACEA, entre autres avec Patrice Courteau, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, vient de finir la fouille du cimetière de Lens-Bellé, en Martinique. C'est un de ces cimetières liés à des habitations. Alors, leur statut est difficile, parce que souvent, comme on le disait, c'est pas légal. Donc, il y a peu de sources, voire pas du tout de sources historiques sur ces cimetières. Donc, l'archéologie est véritablement la voie royale pour étudier ces ensembles funéraires. C'est des travaux qui sont relativement bien développés ces dernières années. Il y a eu plusieurs fouilles en Guadeloupe. Là, on en a un bel exemple en Martinique. C'est des travaux qui nous permettent à la fois de faire, on va dire, de la démographie, étudier les populations qui sont là, faire des études génétiques pour savoir leur origine, parce que c'est pas parce qu'on est dans un cimetière qui n'est pas un cimetière paroissial qu'il y a forcément que des esclaves a priori qui sont enterrés. C'est aussi des travaux qui permettent de travailler sur l'état sanitaire des populations. Et donc là, ça nous apporte des éléments très riches qui viennent compléter des sources historiques qui, là, dans ce domaine, sont totalement lacunaires.
Et puis, phénomène très nouveau, il y a des demandes de restitution ?
Alors effectivement, mais Dominique Roger en parlera sans doute aussi bien que moi, il y a une vraie question par rapport à ces cimetières. C'est quelque chose qui est très particulier. Des fois, nos collègues de métropole le perçoivent moins bien, mais ce sont des cimetières qui, peu importe la date à laquelle ils ont fonctionné, qui sont perçus par la population comme des cimetières de 1848, du jour de l'abolition de l'esclavage. On ne fouille pas si souvent des cimetières du 19e siècle en métropole. Et donc, de fait, la question mémorielle se pose de façon beaucoup plus aiguë, d'autant plus que l'histoire est ce qu'elle est.
Et objectivement, les gens ont dit « ce sont nos ancêtres ». Ils ont le sentiment qu'on est en train de fouiller la tombe de leurs grands-parents. Alors, ce ne sont pas leurs grands-parents, effectivement, mais il y a une proximité. Puis surtout, les gens vivent dans les mêmes quartiers, les mêmes villages. Et donc, il y a une difficulté parfois de comprendre la démarche de l'archéologue, la démarche scientifique, qu'on puisse leur dire que l'État en soit propriétaire. Oui, déjà, ils étaient propriétaires de quelqu'un, maintenant c'est l'État qui... Voilà, ça peut être extrêmement choquant. Ensuite, voilà, il y a aussi une autre démarche qu'on a été très, je crois, émue lors d'une rencontre avec cette personne qui nous a dit, on sait ce que c'est le patrimoine à la Martinique, c'est celui des béquets. Et il y a aussi l'idée que c'est là ce désir que l'on prenne en compte leur histoire. L'histoire des esclaves, l'histoire des engagés, l'histoire de tous ces travailleurs de la Martinique qui ont fait la Martinique et dont on ne parle pas dans nos musées. Donc on a une revendication qui n'est pas illégitime, je pense. Et il faut trouver des solutions qui permettent à la fois d'étudier scientifiquement, parce qu'on a des choses à apprendre. Cette population veut aussi savoir d'où on vient. Il y a une démarche, il y a beaucoup de démarches. La question du retour se pose beaucoup de nos jours. Pas forcément d'un retour physique, réel, mais en tout cas d'un retour symbolique vers le pays des ancêtres, justement. Et puis, il y a ce désir que l'on prenne en compte leur histoire et qu'il y ait des lieux de mémoire, qu'il y ait des lieux scientifiques où on peut mettre à distance cette histoire et d'avoir des musées autour de cette histoire. Donc je pense que oui, c'est important de trouver le bon équilibre, une solution qui permette à chacun de retrouver ses intérêts.
Carbon 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Cédric Châtelus et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site anera.fr. La semaine prochaine, départ pour d'autres lieux, d'autres temps.